Dieu peut faire. Vous savez, souvent, la plupart de nous ont été élevés comme ceci. C'est, faut pas trop en demander. Faut pas trop espérer parce que, tu sais, des fois, on peut être déçu. Mets pas tes espérances trop hautes, là. Là, tu rêves en couleur, tu sais, là. Et puis, ça serait bien trop beau pour être vrai. Combien de vous avez eu ces phrases-là dans votre bouche quand vous avez « Amen », hein? Tu sais, c'est bien trop, manque-en pas trop. Tu sais, là, quand on se réjouit trop vite, après ça, on est déçu. Nous autres, on a été élevés comme ça. Fallait pas rire. C'est vrai, hein, Sylvie Puguette? Fallait pas rire. Si on riait trop, là, vous allez pleurer après, les petites filles. Comme si ça finit toujours mal. Pourtant, elle a jamais vu les beaux films d'amour que j'ai vus. Ça finit toujours bien. Ils vécurent heureux, puis ils eurent beaucoup d'enfants. Amen. Pasteur Brian, il a dû écouter ça, il est rendu à toi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mais vraiment, on a été élevés avec tellement de pression de ne pas espérer grand. De ne pas espérer grand. Puis, je méditais là-dessus hier, sur ces paroles-là. Puis, je pensais un voyage qu'on a eu le privilège de faire. Les quatre sœurs, Huguette, Françoise, Sylvie, puis moi, avec ma mère dans le temps qui avait 89 ans, parce qu'on avait une de nos sœurs dans le temps qui demeurait en Californie. Et puis, il y a quelqu'un là-bas qui s'arrangeait pour nous voyager avec des air miles, puis nous faire monter là-bas. Il avait même loué un hôtel pour 2 jours à Las Vegas. Hey, on rêvait en couleur. OK? Puis c'est bon de rêver en couleur, parce que des fois, le monde nous dit ça, hein, tu rêves en couleur. Pourtant, Dieu, il a pas fait le monde en noir et blanc, là, tu veux dire. La couleur, ça vient de lui. Mais, ma sœur Françoise, elle était vraiment, mais vraiment, avec toutes les phrases que je viens de dire. Faut pas trop se réjouir. Puis, il y avait un esprit de peur qui la dominait beaucoup plus d'un sens, quand j'y repense, que je pouvais avoir été dominée par la peur, par le passé. C'était tout par en dedans. Puis ma mère était au foyer, et puis ma sœur marchait tous les jours. Puis là, la voix à ma mère, puis je vais vous dire, avant qu'on fasse le voyage, là, pendant 1 mois, 2 mois de temps, là, elle allait s'asseoir là, puis elle parlait pas. Puis si ma mère, elle disait, puis toi, t'as-tu hâte? Maman, on va pas en parler, hein? On n'en parlera pas, OK? On n'en parlera pas. Elle avait assez peur de se réjouir puis que ça l'arrive pas. C'est vrai, hein? Elle passait son temps à dire, on n'en parlera pas. Il se privait de se réjouir avant. Il se privait d'en parler. Il fallait pas trop... C'était comme ça qu'elle était. Puis ma mère, ça y prenait pour prendre l'avion, là. Elle avait pas de passeport à l'âge que t'es rendue, là. Et puis ça prenait une photo, quelque chose avec sa photo. Le permis de conduire, oublie ça, elle n'avait plus. Ça fait que, puis la carte d'assurance maladie, il disait que c'était pas nécessaire d'avoir la photo. Nous autres, on savait bien qu'à 89 ans, elle était sotte grande avec la tête blanche, qu'elle avait pas l'air d'une terroriste, là. Mais par contre, on savait très bien qu'il nous avait dit, American Airlines, que ça ne servait à rien, ça prenait que la photo. Et puis, on a pris ma mère, il faisait quasiment 30 en bas de zéro au mois de février, puis on l'a habillée avec 3 ou 4 chandails en dessous de son manteau pour qu'elle pogne la grippe avant, parce qu'il ne faut pas trop se réjouir, hein, au cas où. Et puis, on l'a emmenée se faire poser, puis elle avait son béret, puis là, elle est assise là, puis on a expliqué que ça prend une photo, on n'a pas le choix. Puis je me souviens d'avoir passé en arrière, j'ai ôté le béret, ils ont pris la photo, j'ai remis le béret, viens-t'en. On voulait absolument l'emmener, puis tout le monde disait, voyons donc, c'est impossible. Une femme de 89 ans allait faire un voyage, tout le monde au foyer, tu t'en vas à Las Vegas, tu vas voir Céline Dion, oh mon Dieu! Hey, là, c'était la grosse affaire. Mais c'est, je veux juste vous dire que ma soeur Françoise, elle avait de la misère à croire que ça pouvait être parfait. Puis quand son mari y est venu la reconduire chez nous, parce que c'est Pasteur Réal qui nous emmenait à Montréal, Sylvie puis Bernard, Sylvie puis Huguette, ils restent dans la même rue que chez nous. Fait que Françoise puis maman, elles sont arrivées chez nous. Elle a presque pas mangé pour souper parce que tant qu'elle n'était pas rentrée dans l'avion puis rendue là-bas, c'est comme, faut pas trop, au cas où, c'est, mais comment de monde sont élevés comme ça? A toujours pensé, faut pas aller trop. Puis rendue là-bas, par exemple, là, on la reconnaissait pas. Là, elle est arrivée, là. Hey boy! Mais malgré tout cela, je veux juste expliquer que il faut ouvrir notre mentalité. Qu'avec Dieu, c'est pas des déceptions. Qu'avec Dieu, avec Dieu, c'est toujours plus. Avec Dieu, c'est toujours au-delà. Avec Dieu, c'est toujours, il veut qu'on ait de l'espérance. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Puis le mot vraiment espérer, ça veut dire qu'on s'attend. On s'attend d'y voir, qu'on est dans l'expectative. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu t'attends et une démonstration de celles que tu ne vois pas. Amen. Alors vraiment, ce matin, je voulais parler de la foi. Puis comment qu'il faut changer notre mentalité puis enlever ça de notre tête que hey, ça serait bien trop beau pour être vrai. Ça serait. Au début, j'étais comme ça. Je me disais, ça serait un miracle. Savez-vous combien de miracles j'en ai vu depuis ce temps-là? Mes sœurs, elles disent toujours, toi, Chantal, tu nous embarques toujours dans un moyen bateau parce que je suis une organisatrice. Mon beau-frère, Harold, il commence déjà à préparer la fête de ma sœur Jacinthe l'année prochaine, elle va avoir 60 ans, au mois de novembre 2016, pour qu'on réserve... James, oui, je me suis trompée. Oui, c'est sûr que ça arrive, hein? En autant que je me trompe pas trop. Amen. Alors, James, il prépare sa fête. Puis là, il nous disait, il dit, je peux faire voyager deux couples avec American Airlines, parce qu'il travaille pour American Airlines, gratuitement. Puis il dit, en tout cas, je peux aller jusque-là. J'ai dit, laisse faire les couples. Réal puis Bernard, ça y est, t'aimes pas d'aller à la fête à Josselin et tous autres? J'ai dit, fait que là, j'ai réécrit, j'ai marqué, what about the sisters? Puis après ça, j'ai repensé à ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on y aille faire? As-tu ça, les trois sœurs, fêter ma sœur Jacinthe? Pourquoi qu'ils ne nous payent pas une croisière? Non, mais tu sais, là, j'ai parlé de ça à Huguette et à Sylvie, puis ils étaient d'accord. J'ai dit, attends que j'y réécrive. M'a dit, écoute, tu veux faire plaisir à ta femme? Puis tu veux que ça soit vraiment élaboré? J'ai des petites nouvelles pour toi. Fly-nous en Floride, on s'occupera bien du reste. Amen! On ira vous voir une journée avant. Amen! Gloire à Dieu! Moi, j'ai des idées de grandeur. C'est correct? Amen! Aimez-vous ça, un pasteur qui pense petit? Oh, ben là, vous savez, mes bien chers frères. Il faudrait pas trop se réjouir, parce qu'ils finissent toujours dans une note basse. Non! Alléluia! On chantait un matin, Hosanna! Amen! Gloire à Dieu! Je voulais vous montrer c'est quoi la foi. On va aller à Matthieu 14. Et pourquoi j'ai dit ces choses-là? C'est parce que il a fallu que je me corrige moi aussi. On était tellement élevés avec la mentalité de pas rire parce qu'on va pleurer tantôt, de pas se réjouir trop vite parce qu'on va être déçu, de pas trop espérer parce que, contente-toi de qu'est-ce que... Ça, c'est une autre affaire. Contente-toi de qu'est-ce que tu as. Puis le monde, c'est écrit dans la Bible, hein? contentez-vous de ce que vous avez. Hey, il y en a qui me la sortent, celle-là, là, puis ils me la lancent. Oui, je veux faire comme l'apôtre Paul, apprendre à être content quand je suis dans la disette, puis apprendre à être contente quand je suis dans l'abondance. Apprendre à être contente quand j'en ai pas, puis apprendre à être contente quand j'en ai. Autrement dit, ce que ça veut dire, se contentez-vous de ce que vous avez, c'est chialez pas quand vous n'avez pas. Parce que vous savez comment Dieu prend soin de tous ses enfants. À chaque jour suffit sa peine, puis à chaque jour on a notre pain quotidien, puis à chaque jour les bontés de Dieu se renouvellent. À chaque jour, on peut couler dans sa grâce, ses miséricordes, sa force, son amour et tout le reste. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à pas chialer. Si on passe un petit creux, puis on n'a pas, on le loue pareil. Mais on peut espérer à plus. Le monde oublie que l'apôtre Paul, il dit, « Hey, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse, OK? » Il dit, « J'ai appris. » Moi aussi, j'ai appris quand j'en avais pas. J'ai appris, c'est plus le fun quand j'en ai. Amen. Gloire à Dieu. Mais dans Matthieu 14, si je commence à lire au verset 24, « La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. C'est drôle, en tout cas. Voyant que le vent était fort, il a eu peur. Si tu es au milieu de la mer puis tu débarques, c'est déjà épeurant. Non, mais tu sais, mais voyant que le vent était fort, vous savez, le diable, il va s'arranger pour qu'il y ait du vent fort. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que ça faisait des vagues, puis là, les vagues embarquaient par-dessus ses pieds, puis là, il ne voyait plus ses pieds. Là, il a eu peur. Amen. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Avez-vous remarqué que pendant que tu fais ton pas de foi, c'est là que s'élèvent toutes les choses, puis aussitôt que c'est terminé, il n'y en a plus de choses qui s'élèvent, parce qu'il n'y a plus rien à voler, tout est fait. Mais vraiment, c'est quoi la foi? Vraiment, ma définition, ben, j'en ai plusieurs, mais une de mes définitions de la foi, c'est vraiment être invité à marcher sur l'eau. Ma définition de la foi, c'est être invité, Jésus a dit, viens, il l'a invité, être invité à marcher sur l'eau. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est être invité à marcher sur l'inconnu, sur l'impossible, sur l'extraordinaire. C'est ça la foi, c'est être invité. Quand Dieu nous donne sa parole, la parole que Pierre avait, c'est « viens », mais quand Dieu nous donne sa parole, et puis il nous dit « je vais pourvoir à tous tes besoins », et toi tu t'accroches à cela, tu t'accroches vraiment à l'inconnu, tu t'accroches vraiment à l'impossible, bien des fois. Parce que des fois, la montagne est tellement haute ou c'est tellement impossible avec tes yeux que c'est vraiment marcher sur l'eau. Parce que c'est vraiment marcher sur quelque chose que tu ne le sais pas comment Dieu va te soutenir, comment toutes choses vont aller. Tu ne sais pas quels moyens il va prendre. Tu ne sais pas comment il va faire les choses. Tu ne le sais pas. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment impossible, c'est vraiment de l'inconnu. Marcher par la foi, c'est comme marcher sur l'eau. Amen. Il y a des choses qui vont s'élever pendant que tu marches par la foi. Combien de vous le savez? Vous croyez soit pour vos enfants, ou soit pour une amélioration financière, ou soit pour une augmentation en quelque part au travail, ou soit vous marchez par la foi. C'est vraiment comme marcher sur l'eau. Tu ne sais pas comment il va faire les choses. C'est de l'inconnu. Parce que Dieu le fera sûrement pas de la façon que tu aurais pensé, la plupart du temps. Puis j'ai marqué ici la raison. Parce que Dieu, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Des fois, on va voir quelqu'un agir drôlement, puis on va dire, mon Dieu, il n'est pas normal. C'est ça! Dieu n'est pas normal. Amen. Puis quand Jésus est venu sur la terre, puis il a marché normalement dans nos souliers, aussitôt qu'il regardait son père faire, puis il faisait les mêmes choses, il ne devenait pas normal lui non plus. Pensez-vous que c'est normal de prendre de la bouette, de mettre ça dans les yeux d'un aveugle, puis de dire, va te laver, puis il va voir. C'est-tu normal? Mais il avait vu son père faire au début des temps. Quand son père, il a pris de la terre, puis il a mis ça là, puis il a formé un homme, puis il a soufflé la vie dedans. Fait qu'il dit, si ça a marché pour lui, ça va marcher, mais pour le recouvrement de la vue. Fait qu'il a fait de la bouette, lui-ci, puis il a mis ça dans les yeux. Parce que Jésus a dit lui-même dans Jean 5, 19, « Je fais tout ce que je vois mon père faire. » Mon père, il n'est pas normal de prendre de la terre, mettre de la vie là-dedans, puis en faire un corps humain vivant, une âme vivante. Je suis capable de le faire moi aussi. Amen. Fait que Dieu qui marchait normalement sur la terre s'appuyait sur un Dieu qui n'est pas normal. Pensez-vous que c'est normal de payer tes impôts avec un poisson? Je sais qu'il y en a qui s'en fichent. Ah, elle est bonne, hein? J'ai pensé dans mon bureau tantôt. Fish, poisson, hello? OK. Bon. Non, mais c'est-tu normal, ça? Tu sais, quand vient le temps des impôts, Pasteur Réal, il dit pas, va à pêche. Amen. On aimerait ça que ça se passe comme ça bien des fois. C'est pas normal. C'est pas normal de regarder 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Vous savez, c'est bien écrit, hein, ce bout-là. On compte, en tout cas, en quelque part, aux yeux de Dieu. Et puis, de prendre deux petits poissons, puis cinq petits pains, puis de nourrir tout le monde, et puis qu'il reste 12 paniers à la fin. Le petit gars est arrivé avec sa boîte à lunch, puis là, il est obligé d'avoir un tracteur-trailer pour traîner ses 12 paniers, s'en retourner chez eux, nourrir le village au complet. C'est-tu normal? Non, on sert un Dieu qui n'est pas normal. Amen. Il est au-delà. Au-delà de nos espérances. C'est-tu normal de dire, je vais sauver le monde, puis je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais prendre la chose la plus fragile au monde, un enfant. Un enfant. Un enfant va naître, là. Puis ça, là, quand ça va grandir, là, va sauver le monde entier. Dieu, il ne pense pas normalement comme nous. Dans Ésaïe 55, 11, ça dit que ses voies sont au-dessus de nos voies. Aussi hauts sont les cieux. Aussi hautes sont ses voies et ses pensées. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. La plupart du temps, Dieu ne le fera pas de la façon que vous aviez pensé. Même quand je regarde ici à l'Église, ça fait 6 ans maintenant qu'on est dans l'agrandissement, puis à chaque fois que je rentre ici, à chaque fois, je suis émerveillée de voir comment Dieu l'a fait. Il l'a fait, mais comment dans le normal, il y a toutes sortes d'opinions qu'on avait. « Oh, bon, tu sais pas si grand. » Vous n'êtes pas obligé de faire les ados tout de suite. Peut-être que vous pouvez aller en étage à la place. Pourquoi tout le normal arrivait? Mais pendant 11 ans, on avait chanté avec des feuilles parce que le toit de la maison était trop bas. Puis j'ai dit, un jour, le monde va pouvoir lever les mains et lever les yeux. Puis là, j'arrêtais pas. Mais on avait une équipe qui était avec Pasteur Réal de l'Église. Et puis, je disais, là, les plafonds vont-tu être hauts? Puis je me souviens, Mario, il disait, tu vas voir, Pasteur Chantal, ils vont être hauts. Ça va être haut. J'ai dit, vous êtes sûr là, que ça va être bien haut, hein? Oui, oui, il va être haut. Mais semble que t'es-tu sûr, Pasteur Réal? Là, j'arrivais en quelque part, puis là, je disais, j'arrivais au Costco, puis je disais, ça va-tu être haut comme ça? Pasteur Réal, il dit, je pense que c'est même plus haut que ça. T'es sûr, Pasteur? Et que je voulais-tu que ça soit haut? Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Même si c'est dur à comprendre puis à croire. Wow, wow, oui. Vous êtes arrivé de Drummondville, là, et puis vous aviez pas une scène. You're right. You're right! Je dois encore 10 piastres à mon père. Mais j'arrive au ciel, on prendra un petit morceau de rue, là, puis j'y donnerai. Des rues en or, hein? Mais on est arrivé ici que rien. Mais Jésus l'a dit lui-même. Quand il a parlé au jeune homme riche qui ne voulait pas laisser ses biens, les apôtres ont dit, mais que faut-il faire pour être sauvé? Il dit, à l'homme, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est ça qu'on chantait ce matin. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour ça, il faut enlever nos limites normales puis savoir que Dieu n'est pas normal. Il est abnormal. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vraiment, la foi, c'est permettre aux choses d'arriver au-delà de notre imagination. Vous savez, peut-être que vous autres, vous n'êtes pas comme ça, mais moi, continuellement, je dois travailler à arrêter de penser. Je dois travailler à faire le plus possible pour arrêter de penser. Tu sais, là, je vais dire, oui, mais la cour en asphalte, puis quand ça va s'agrandir, puis toutes ces choses-là, ça me bombarde dans la tête, ou telle personne ne vient plus à l'église, comment aller la rechercher, ou telle personne passe au travers de quelque chose, comment la soutenir, telle autre personne est attaquée de telle manière, comment faire. Ça me travaille tout le temps dans la tête. Mais je suis continuellement obligée de travailler sur arrêter de penser à ma manière à moi. Puis continuellement me dire, avec Dieu, tout est possible. Puis c'est, je peux me réjouir d'avance parce que j'ai pas besoin d'avoir peur que si je me réjouis d'un coup que ça marche pas. Si je ris d'un coup, m'en pleurer plus tard. Non! Je peux rire parce que je vais rire encore. Puis je peux me réjouir parce que je vais me réjouir encore. Et puis Dieu, il arrête pas. Amen. Alors c'est permettre à Dieu, amen, permettre à notre imagination d'aller encore plus haut puis d'aller au-delà de notre imagination. Amen. Gloire à Dieu. On sert un Dieu de miracles. Pendant deux dimanches, j'ai essayé de prêcher ça, puis la musique l'emportait sur mon sermon. Amen. Amen. Aujourd'hui, ils m'ont donné la liberté. Gloire à Dieu. Je vais juste lire dans 2 Rois 7. Je sais que je l'avais expliqué un peu de justesse et de peine et de misère quand c'était la musique ce matin-là qui l'emportait et qu'on a loué pendant une heure de temps. Mais dans 2 Rois 7, vous savez, c'est l'histoire de la Samarie qui était entourée par des armées et puis que la nourriture, il empêchait la nourriture de rentrer dans la ville. Puis au bout d'un certain temps, le monde avait envie de manger leurs enfants. Amen. On les aime, mais là, je les aimais beaucoup. Puis si je commence au verset 1, ça dit, « Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un sicle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Il n'est pas capable de passer par-dessus son imagination. Il dit quand même que Dieu ferait des fenêtres au ciel pour que ça tombe ici à la porte de Samarie. Une chose de même, ça arriverait-tu? Il essayait de figurer une manière que ça pourrait être fait sans y croire. Avez-vous déjà remarqué que quand on figure de quoi, on n'y croit même pas? Moi, toutes les fois que j'ai essayé de figurer quelque chose, dans le fond, j'y croyais pas parce qu'il y avait trop de négativité qui rentrait dans ma tête. Ben voyons donc, voir si cette personne-là pourrait faire ça pour toi. Ben voyons donc. Il y avait tellement de négativité. Tout aussi bien de le laisser faire, amen. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, nous y mourrons. Puis si nous restons ici, nous mourrons également. Tu sais, quand je veux dire, quand tu as la mort, c'est tout et bord. Amen. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Puis s'ils nous font mourir, bien, on mourra comme on est supposé de mourir et nous. Amen. Ils partirent donc, alors on voit qu'ils n'ont pas une grande foi. Alors, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittiens, les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Voyez-vous, le Seigneur avait fait entendre un bruit tellement terrible qui étaient sûrs qu'il y avait des rois avec toutes leurs armées qui s'en venaient contre eux. Et puis là, ils ont eu tellement peur, ils ont dit, ça y est, c'est nous autres qui va passer au cash. Alors, ils se sont sauvés, puis dans leur frayeur, ils ont tout laissé là, puis ils se sont sauvés. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, puis emportèrent l'argent, l'or, puis les vêtements pour aller, ils allèrent les cacher. Le monde y allait à la guerre avec leurs or et leurs argent. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le monde en sait peur qui traîne ça sur eux autres. Mais moi, vous dire, quand le Seigneur travaille, ça tombe. Amen. Tu l'oublies vite. Ta vie vaut plus que tout. Alors, ils revinrent et pénétraient dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons en informer la maison du roi. » Vraiment, pourquoi je voulais qu'on lise cette histoire-là? On sait très bien qu'ils ont toutes sorti. Ils sont allés dans le camp et ils ont eu une fleur de farine pour un sic. Amen. Ils ont eu exactement ce que le prophète avait dit. Mais ce que j'avais expliqué un matin rapidement, et qu'est-ce qui m'impressionnait à propos de cette histoire, c'est que les 4 lépreux n'ont pas la foi. C'est pas un acte de foi. On va aller là, puis tu vas voir que Dieu va nous faire gagner. Non. Ils ont dit, si on rentre dans la ville, on meurt. Si on ressuscite, on meurt. Si on va là-bas, on risque de vivre, on risque de mourir. Fait que, on tire à pile ou face, on y va. C'est pas la foi, ça. Mais Dieu, il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu qui est pas normal. Il est un Dieu que lui pense aux miracles continuellement. Puis bien des fois, on embarque dans un miracle, puis on le sait même pas. Mais quand on garde nos yeux sur lui, amen, Dieu, il a fait le miracle. Le miracle tellement grand qu'après ça, ça a été partagé avec toute la ville. Et je me souviens quand le Seigneur nous avait mis à cœur, Pasteur Réal et moi, de monter à Vancouver. Pasteur Réal, il devait aller à Vancouver donner un cours pendant 2 mois et demi. Et puis, puis moi, j'ai eu la brillante idée. « Hey, on pourrait peut-être faire sortir les... » Annie était à la maternelle, Martine, en première année. Et puis, il était à l'école militaire sur la base, puis ça allait très bien. J'ai dit, « On vient de s'acheter un trailer tente. Hey, on pourrait, je pourrais y aller, on va les sortir de l'école un mois avant, puis on sera ensemble, on s'installera sur un terrain de camping. » Il dit, « Ouais. » Hey, j'ai dit, « On pourrait emmener mon père et ma mère, moi, j'embarque le monde, hein. » Et il dit, « Ouais, on pourrait emmener ton père et ta mère. » Et puis, on a monté à Vancouver, mais qu'est-ce qu'on savait même pas, c'est que notre frère était sauvé à Vancouver. Puis Dieu lui parlait pour qu'il s'en vienne au Québec prêcher à sa famille. Puis lui, il avait dit, « Seigneur, il y a une frontière spirituelle qui existe entre l'Alberta puis l'Est du Canada. » Puis j'ai dit que je ne remettrai plus jamais les pieds dans l'Est. Le Seigneur dit, « OK, t'es ma puce, on va emmener les autres de bord. » Puis quand il nous avait arrivé, le Seigneur il a dit, « Si tu y vas pas, je vais les emmener un par un. » Fait que soit qu'il y avait de la visite ou soit qu'il arrivait. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé, justement, c'est qu'on est arrivé là-bas. Et puis, on a été sauvés. Gloire à Dieu. Le mouton noir prenait soin des moutons blancs. Amen. Celui que les prêtres avaient dit à mon père, « Massa dehors, il va faire pourrir toutes les autres pommes. » On arrivait à lui maintenant, puis c'est lui qui prenait soin des pommes pourrites. Amen. Après ça, il est arrivé au Québec, pas longtemps après. Ça, c'est un autre miracle. Notre vie est remplie de miracles. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on lit le livre des miracles. Amen. Amen. Dieu. Lisez la Bible, vous allez voir, c'est un livre rempli de miracles. Puis Dieu dit, médite-la jour et nuit. Fait qu'il doit vouloir qu'on médite ses miracles. Faut croire. Amen. Mais est-ce qu'on le savait qu'on embarquait dans un miracle? Ben non. Nous autres, on s'en allait en Vancouver parce que je voulais pas être toute seule pendant 2 mois et demi. Puis je voulais être avec mon mari. Puis tant qu'à faire, t'es aussi bien d'y aller. Amen. L'argent qu'il donnait pour prendre l'avion, il pouvait le mettre sur des journées de voyage. Fait qu'on prenait les mêmes sous, puis on allait à Vancouver. Tout le monde est content, surtout madame. Amen. Mais est-ce qu'on le savait? Est-ce que j'avais la foi? Pantoute, je ne suis même pas sauvée. Dieu est un Dieu de miracles. Vous avez juste à lire depuis le commencement de la Bible, aller jusqu'à la fin. Dieu, c'est un livre rempli de miracles. Abraham, Noé, Moïse, Daniel, les prophètes. Après ça, Jésus qui vient puis qui dit, « Moi, je fais tout ce que je veux mon père faire. Hein? Je n'allais pas après moi. Je l'ai vu faire, je le fais. Il n'est pas normal, moi non plus. » Passait son temps à faire des miracles. Après ça, il a regardé les apôtres et dit, « Allez par toute la terre, puis voici les miracles qui vous accompagneront. » Encore? Oui! Il ne change pas. Même la parole de Dieu dit qu'après être ressuscité, il est apparu aux 12, puis il a fait là encore beaucoup de miracles qui ne sont même pas écrits dans le livre. J'ai-tu hâte de savoir c'est quoi, moi? Amen. Ça doit être spécial de voir un gars mourir, puis de le voir dans le tombeau, puis après ça, tu le vois revenir, puis il fait des miracles. Wouhou! Gloire à Dieu. On sert un Dieu de miracles, de l'impossible. La foi, c'est marcher sur l'eau. Mais c'est marcher sur une espérance qui va se démontrer. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on s'attend, qu'on espère. Et la démonstration des choses que tu ne vois pas. Je voulais vous exhorter ce matin à vraiment penser grand. Vraiment penser grand. Puis essayez pas de figurer comment Dieu peut faire ça. Moi, j'ai arrêté de figurer. Parce que quand je figure, ça... C'est jamais ça. Puis vous savez, je vais juste terminer avec une écriture, c'est Matthieu 11, 20. Matthieu 11, 20. Et puis, Jésus a fait des reproches à des villes. Il a dit, au verset 20, « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. » Puis là, il a dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu, qui ont été faits au milieu de toi, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon sera traité moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Il y a une raison pourquoi Dieu fait des miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Il fait des miracles dans Chorazin, puis il fait des miracles dans ces places-là, parce qu'il s'attend à une réaction. Il s'attend que le monde va réagir. Moi, avec le peu de cervelle que j'ai, dans le naturel, puis avec le peu de tout ce que j'ai, j'essaie de faire des miracles dans la vie de mes petits-enfants. J'essaie d'avoir un congélateur toujours prêt de sandwich à crème à glace, de cornets de crème glacée, de toutes sortes de choses. Parce que je veux voir une réaction. Je veux que quand ils ont fini de se baigner, de dire au petit gars, « Voulez-vous avoir une sandwich à crème à glace? » Wow! Je veux une réaction. Dieu, c'est un Dieu de miracles, puis il veut de la réaction. Il ne changera pas. Parce que la parole de Dieu dit que c'est par les bontés de Dieu que l'homme vient à la repentance. Puis le mot bonté, c'est quoi en réalité qui parle de ses bontés? C'est par tous les miracles qu'il fait que l'homme vient à la repentance. Amen? On prêchait sur la guérison à Drummondville, puis il y a des gens qui m'appelaient au téléphone, puis qui disaient, « Vous seriez bien mieux de prêcher sur la repentance. Je pense que le monde a bien plus besoin de se repentir que d'être guéri. » Mais je dis, ils vont se repentir après avoir été guéris. Amen? Vois les bontés de Dieu dans ta vie, puis tu vas voir que tu vas tomber sur tes genoux. Ça ne sera pas long. Amen? Oh, gloire à Dieu. Dieu, c'est un Dieu de miracles. C'est lui qui va le faire. Tout ce qu'il nous demande quand on marche par la foi, c'est... il sait que c'est l'inconnu. Parce que ça ne sera pas de la manière qu'on y aurait pensé, mais de la manière que lui peut le faire, au-delà. Amen. C'est un Dieu de miracles. Parce qu'il s'attend toujours à une réaction favorable. Amen. Gloire à Dieu. On sert un grand Dieu. Amen. On va se lever debout. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je vais demander à Pasteur Brian de venir, Thomas. Je veux juste faire une prière générale ce matin aussi, avant la prière du salut. Vous vous attendez peut-être, combien de vous s'attendez à un miracle dans votre vie? Vous faites bien. Vous faites bien! Parce qu'on sert un Dieu de miracles. Vous faites bien de vous attendre. Puis Dieu est content. Je peux vous dire que vous dites Dieu est content. Oui! Parce que ça prouve comment il est grand, comment il est le créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, le seul Dieu. Ça le démontre. Je veux prier pour vous ce matin. Moi aussi, j'y crois au miracle. Puis j'en ai vu. J'ai pas fini d'en voir. J'ai dit à mon mari, j'ai pris l'exemple sur Kenneth Copeland, on l'a écouté toute la semaine. Je vais vivre jusqu'à 121. Parce que je veux partir en même temps que mon mari. Puis vu que je suis un petit peu plus vieille, je suis obligée de l'attendre. OK? Fait que c'est 120. Je vais vivre jusqu'à 121 pour partir ensemble. Amen. On sert un Dieu de miracle. Amen. Hallelujah. Oh, gloire à Dieu. Père éternel, je veux prier pour toute cette assemblée ce matin. Je sais qu'il y a des gens ici ce matin, Seigneur, qui ont peut-être eu des mauvais rapports. Ils ont peut-être qu'ils se sont fait voler des choses. Peut-être qu'ils ont subi des défaites. Ils ont été déçus par des gens. Il y a des gens ici, vous avez été déçus par des gens. Vous vous êtes fait voler une confiance que vous aviez. Peut-être que vous vous êtes fait dire des choses par un médecin qui connaît ce qu'il fait, mais qui connaît peut-être pas celui qui peut changer toutes choses. Bien, ce matin, je veux croire pour vous. Père éternel, au nom précieux de Jésus, tu dis, Seigneur, qu'on demande afin de recevoir. Je prie pour toute cette assemblée ce matin, Seigneur. Pour les miracles que tu vas faire dans leur vie, Seigneur, parce que tu es un Dieu de miracles. Comment tu vas rétablir les choses, faire tourner les choses, Seigneur. Positionner des gens, amener une augmentation, ramener des enfants perdus. Père éternel, on s'adresse à toi, Seigneur, avec confiance. Mettant nos yeux sur toi, Seigneur, par la foi, sachant très bien, Seigneur, comment tu travailles. Aussi haut que sont les cieux, sont tes voies. Aussi haut que sont les cieux, sont tes pensées. Alors agis, Seigneur, au-delà de toute imagination. Au nom de Jésus, amen. Amen. Pasteur Brian.